Pour démarrer, en 1999, Jane Ozan, chargée d'étudier l'attitude des gens à l'égard de l'Église d'Angleterre, demanda à un groupe d'ados, donc les collégiens écoutaient, hein, un groupe d'ados de dessiner ce que l'Église évoquait pour eux. Aïe. Ils n'avaient pas une image très positive de l'Église. Un jeune dessina une cage. Voilà ce que fait l'Église, elle vous enferme. Un autre représenta un lion en disant « l'Église vous dévore ». Alors je ne sais pas si ça va motiver les moniteurs du groupe de collégiens à demander à leurs jeunes de dessiner l'Église. J'espère que l'image serait moins négative. Et j'espère que pour chacun d'entre nous, ce matin, l'Église, l'image de l'Église en tout cas est moins négative. Nous poursuivons donc notre série ce matin, une série de 3 prédications sur ce que signifie être membre d'une Église locale à partir de ce livre-là de la série Nine Marks de Jonathan Lehman. Donc la semaine dernière, Raph a introduit un sujet, c'est pour moi aujourd'hui, et puis la semaine prochaine, Jean-Marc introduira un autre aspect de cette thématique. Et donc la semaine dernière, Raph a répondu à cette question. Comment devient-on membre d'une Église locale? Comment devenir membre d'une Église locale? Et ce matin, aujourd'hui, je vous propose de répondre à une autre question qui est un peu parallèle, c'est pourquoi adhérer à une Église locale? En fin de compte, pourquoi est-ce qu'il faudrait adhérer à une Église locale? Et pour répondre à cette question, on va voir 3 aspects de ce qu'est l'adhésion à une Église locale. D'abord, on va voir ensemble quel est le fondement biblique de l'adhésion à une Église locale. Comment la Bible évoque l'Église? Comment la Bible évoque les membres d'une assemblée, d'une Église? Et qu'est-ce que cela nous enseigne au sujet de l'adhésion? Dans un second temps, je vous présenterai 3 éléments qui doivent être au fond, le socle de notre adhésion, de toute adhésion à une Église locale. Et enfin, on évoquera ensemble la forme de l'adhésion, que l'adhésion à l'Église locale peut avoir et la manière dont notre Assemblée, notre Église l'a mise en place. D'accord ? Ces 3 éléments. D'abord, le fondement donc, biblique de l'adhésion à l'Église locale. Et on va voir 6 images que la Bible nous présente à propos de l'Église et de ses membres. 6 images différentes. La première, c'est 1 Pierre 2, verset 5. Un temple formé de pierres vivantes. Vous êtes, vous aussi, des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former un temple spirituel. Les chrétiens sont appelés à s'édifier, à se construire les uns les autres ensemble pour édifier ce temple spirituel. Une autre image, un troupeau de brebis. Jean 10, versets 14 à 16. Moi, donc c'est Christ qui parle bien sûr, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Tout comme le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix, ainsi il n'y aura plus qu'un seul troupeau avec un seul berger. Les sarments, les branches d'une vigne. Je suis le cep, là encore une fois, c'est Jésus qui parle, je suis le cep de la vigne, vous en êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'image de l'épouse aussi, Apocalypse 19, versets 7 à 8. « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Cela représente les actions justes à ceux qui appartiennent à Dieu, de ceux qui appartiennent à Dieu. » Et dans cette image, bien sûr, l'agneau représente Christ, qui est l'époux, et l'épouse est son Église à la fin des temps. Une autre image, celle qui a déjà été introduite par Patrice pendant le temps de la scène, c'est celle du corps, qui est bien connue, 1 Corinthiens 12, verset 12. Le corps humain forme un tout, et pourtant il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis en Christ. Nous sommes un seul corps. Et enfin, une dernière image, et cette série n'est pas exhaustive, hein, il y aurait peut-être d'autres images aussi à rajouter, c'est celle de la famille, Éphésiens 2, verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. D'étrangers, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Les membres d'une église sont tous là en même temps. Un temple, un troupeau, des sarments, une épouse, un corps ou encore une famille. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Dieu, quand il décrit l'Église, la décrit avec beaucoup d'enthousiasme. Il utilise beaucoup d'images pour nous décrire ce que représente l'Église pour lui. Il n'y a rien de comparable à l'Église en ce monde. Si on devait résumer l'image qui ressort de la Bible, c'est qu'il n'y a rien de comparable à l'Église dans ce monde. Chacune de ces six images nous enseigne quelque chose de différent sur l'Église et ses membres. Le temple revient à dire que Dieu s'identifie à son peuple et qu'il habite au milieu de lui. Le troupeau de brebis évoque la bienveillance du bon berger pour chacun d'entre nous, son souci, sa miséricorde. Jo en a parlé en intro de ce culte. Le cep, les sarments, communiquent la dépendance de l'Église vis-à-vis de Jésus, de sa parole. L'épouse met en avant la notion d'alliance entre l'Église et Christ. Le corps communique le fait que ses membres sont interdépendants, tout en jouant des rôles différents. Nous ne sommes pas des images parfaites les uns des autres. Nous avons tous nos différences, mais nous sommes interdépendants à travers le corps. La famille, enfin, évoque l'intimité relationnelle de ses membres. Nous sommes liés les uns aux autres par des rapports familiaux. Le fait que le Nouveau Testament développe différentes images à propos de l'Église et de ses membres, et qu'en plus, chacune de ces images évoque un élément différent de ce qu'est une Église, de ce qu'est les membres dans une Église, démontre en tout cas qu'il ne sert à rien de vouloir mettre l'accent sur une image plutôt que sur l'autre. Il ne sert à rien de vouloir mettre l'accent, par exemple, sur la famille par rapport au sarment. Non, tout se complète, tout va ensemble. Toutes ces images s'appliquent de la même manière et avec la même force au sein de l'Église et de ses membres. Pour vous compreniez mieux, c'est comme si je disais que je suis plus un mari qu'un père, ou plus un père qu'un mari. Je suis à la fois un mari et un père, avec la même force, avec la même identité en moi. Et c'est pareil pour l'Église. Elle est toutes ces images à la fois, en même temps. Elle est à la fois temple, troupeau, sarment, épouse, corps et famille. Encore une fois, ce qu'il faut retenir de cet aspect-là, c'est que pour Dieu, pour la Bible, il n'y a rien de comparable à l'Église sur cette terre. Rien du tout. Alors, arrivé là, peut-être que vous êtes en train de vous dire que c'est bien joli toutes ces images, mais qu'au final, ça n'a pas vraiment beaucoup de portée pratique. Ça n'a pas de conséquences pratiques. Eh bien, détrompez-vous. Toutes ces images, je crois, ne sont pas abstraites, mais devraient bel et bien se manifester, se concrétiser au sein de notre assemblée, au sein de l'Église locale. Par exemple, tous les chrétiens du monde appartiennent à la même famille de Dieu, bien sûr. Le chrétien qui se réunit à l'autre bout de la planète Terre appartient à la même famille de Dieu que vous et moi. Mais c'est dans l'Église locale que cela devrait être le plus réel, le plus palpable pour nous. Lorsque nous traitons ceux et celles qui nous entourent avec des rapports familiales, comme de véritables frères et sœurs. De la même manière, le corps de Christ s'étend à l'Église du monde entier, mais nous vivons pleinement comme un corps dans l'Église locale, où nous nous aidons les uns les autres, selon nos dons, selon nos capacités. Lorsque nous nous réunissons localement, nous sommes aussi le temple de Dieu, qui vient demeurer au milieu de nous, comme il l'a promis. Là où deux ou trois sont rassemblés, il est là, il est présent. Et ce matin, il est présent. Pas parce que nous sommes dans un bâtiment, mais parce que l'Église, chacun d'entre nous, nous nous réunissons ensemble. Et ce faisant, nous avons en quelque sorte un avant-goût de ce que sera le rassemblement de l'Église universelle de tous les temps, à la fin des temps, quand Jésus sera présent au milieu de cette Église. Nous goûtons à ce que nous allons vivre plus tard, quand nous serons toute l'Église universelle de tous les temps rassemblés devant lui pour former ce temple de Dieu. Si on a bien saisi la concrétisation de ces images dans l'Église locale, alors on a compris qu'au final, une Église locale fonctionne un peu comme une sorte d'avant-poste de l'Église universelle. Et donc, d'après la Bible, notre adhésion à un corps local, à une assemblée locale, représente aussi notre adhésion à l'Église universelle, ni plus ni moins. Malheureusement, il arrive qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se disent des choses du style « Moi, je ne suis pas de telle ou telle église. Moi, je suis chrétien. C'est tout. Et ça me va bien. Une église, je n'en ai pas besoin. Je veux vivre ma foi seule. » C'est tous ceux qu'on pourrait appeler des chrétiens SEF, S-E-F, comme sans église fixe. Et c'est une grossière erreur qui est complètement à côté de la plaque, bibliquement parlant. Au contraire, toutes les images de l'Église qu'on vient de voir, qu'on retrouve dans la Bible, démontrent que l'Église locale est pleinement dans le plan de Dieu pour chacun de ses enfants. Adhérer à une Église locale, à la fois fondée sur la parole de Dieu et soumise à cette même parole, bien sûr, c'est concrétiser, d'une certaine manière, son adhésion à l'Église universelle de Dieu. Pour être plus clair si besoin, ne pas adhérer à une Église locale parce qu'on pense que c'est une option dans la vie chrétienne, ben c'est comme acheter une voiture en ne prenant pas l'option volant. Ça n'a aucun sens, aucun. L'Église n'est pas une option dans la vie chrétienne, tout comme le volant n'est pas une option dans une voiture. Dans sa sagesse, Dieu n'a pas voulu que ses enfants se contentent d'une adhésion abstraite à l'Église universelle, mais elle a voulu que cette adhésion se concrétise dans une Église locale en tant qu'avant-poste de l'Église universelle. Un dernier exemple pour mieux comprendre cela, et mieux comprendre ce qui a conduit Dieu à utiliser l'Église locale pour chacun de ses enfants. Comment obéir au commandement de Jésus qui nous demande de nous aimer les uns les autres, Jean 13, verset 34, sans l'Église locale? C'est relativement facile de s'aimer les uns les autres dans l'Église universelle avec des frères et sœurs éparpillés à travers le monde qu'on ne voit jamais, ou très peu. C'est beaucoup plus compliqué de vivre l'amour fraternel, l'amour les uns pour les autres, dans une église locale où on se voit tous les jours ou au moins tous les dimanches et où on voit qu'on n'a pas forcément la facilité d'entrer en relation, de s'aimer les uns les autres. Nous venons de voir que l'adhésion à une église locale est clairement fondée sur la Bible. Et j'espère que ça ne fait aucun doute pour vous maintenant. Maintenant, une autre question se pose. Quel est le fond de cette adhésion? Qui peut être admis ou pas? Et je vous propose trois éléments qui doivent être le fond, le socle de toute adhésion à une église locale. La foi, la repentance, le baptême. La foi d'abord. Les personnes admises dans l'Église, ce sont toutes ceux et toutes celles qui professent la foi chrétienne, tout simplement. La norme à suivre pour devenir membre d'une Église locale ne doit être ni plus ni moins élevée que la norme à respecter pour devenir chrétien. L'adhésion à une Église locale est le fait de valider qu'une personne croit en Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Il est impossible de considérer une personne comme membre de l'Église locale si elle n'a pas saisi personnellement l'Évangile pour elle-même. Par exemple, si quelqu'un demandait à devenir membre de notre Église, mais pensait qu'être chrétien, cela veut dire faire de son mieux, ce serait un non-sens. Parce qu'être chrétien, ce n'est pas faire de son mieux. Procéder à l'adhésion d'une personne qui ne connaît pas véritablement l'Évangile n'est bon ni pour elle, parce qu'elle pourrait se croire sauvée alors que ce n'est pas le cas, ni pour l'Église, qui ne saurait plus distinguer le véritable Évangile du faux. Une telle personne ne doit pas être acceptée comme membre de l'Église, mais elle doit être enseignée pour venir à l'Évangile, pour se convertir, pour plier le genou devant Dieu. Pour valider la profession de foi de quelqu'un, nous avons dans notre assemblée, comme dans beaucoup d'Églises, une confession de foi qui porte sur les sujets essentiels de la foi, comme par exemple la personne de Dieu, la Bible, le péché ou encore le salut. Et le but de cette confession de foi est que tous les membres de l'Église affirment croire bien la même chose par rapport à qui est Dieu, par rapport à qui est Christ et par rapport à l'état de l'homme, pécheur. Et de cette même manière, si par exemple un témoin de Jéhovah, un protestant libéral qui admette croire en Jésus-Christ tout en niant que Jésus est le Fils de Dieu, venait pour demander à devenir membre, cette confession de foi permettrait, de manière très claire, très simple, d'expliquer pourquoi on ne peut pas accepter, pourquoi on ne peut pas l'accepter en tant que membre de notre Église. La norme est la même pour être membre d'une Église que pour être chrétien. Deuxième élément, la repentance. Le plus souvent, être membre de quelque chose signifie être quelque chose que les autres ne sont pas. Par exemple, être assez riche pour adhérer à un club privé, être assez sportif pour adhérer à un club de sport, etc., etc. Avec cette vision en tête, on peut en arriver à de graves erreurs dans l'Église. Certains peuvent se dire qu'étant donné que Christ est parfaitement saint, être un représentant de Christ dans l'Église implique le fait d'être saint. et faire alors de la sainteté la norme d'adhésion à l'Église. Et selon le degré de sainteté d'une personne, on l'admettra ou pas. Mais le christianisme ne commence pas seulement par la foi. Par conséquent, l'adhésion à l'Église ne commence pas non plus simplement par la foi. Les deux commencent par la repentance, par la demande de pardon envers Dieu. Ce n'est pas la perfection morale d'une personne qui la qualifie pour qu'elle devienne membre d'une église locale. Au contraire, c'est plutôt la prise de conscience de son manque de perfection, alliée à sa soif de justice, à sa soif de repentance devant Dieu, qui la qualifie. L'adhésion à une église ne passe pas par la recherche de personnes qui ne pêchent pas, mais de personnes qui luttent contre le péché dans leur vie. L'église locale ne doit pas valider des justes, mais des injustes assoiffés de justice, assoiffés de la justice de Dieu. Quelqu'un a dit, et il avait bien raison, l'église est un hôpital pour les pécheurs, pas un musée pour les saints. L'église est un hôpital pour les pécheurs, pas un musée pour les saints. Est-ce que vous êtes saint ou est-ce que vous êtes pécheur ? De la réponse à cette question, vous pourrez savoir si vous êtes dans la bonne église ici. L'église n'est pas un musée pour les saints, c'est un hôpital pour les pécheurs. Il m'est arrivé parfois de discuter avec des hommes et des femmes qui étaient honteux de leur péché et honteux d'être présents dans l'église. Alors ce sentiment de honte est normal et authentique, mais ce n'est pas un sentiment de honte qui doit nous empêcher d'être présents dans l'assemblée, dans l'église. Ce n'est pas parce que je suis saint que je suis devant vous ici. C'est un non-sens. Je suis pécheur, nous sommes tous pécheurs les uns les autres. Mais ce n'est pas un sentiment de honte qui doit nous empêcher de vivre l'Église. Non, l'Église est un hôpital pour les pécheurs. Nous sommes là pour nous soutenir les uns les autres, dans notre lutte contre le péché. Et pas à vouloir montrer une fausse image de sainteté, qui serait ridicule. Et là, ça serait honteux. Voilà une autre manière d'exprimer la même idée. Ce qui rend les gens acceptables pour une Église, ce n'est pas leur propre pureté morale, c'est celle de Christ. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait pour se sauver, comme s'ils pouvaient faire quelque chose pour se sauver. Mais c'est ce que Christ a fait pour nous sauver. C'est ça qui rend quelqu'un admissible dans l'Église. Et dernier élément, le baptême. Le baptême doit-il être exigé pour devenir membre d'une Église locale ? Il est très clair en tout cas que la première étape de la vie chrétienne, dans un mode normal, standard, devrait être immanquablement le baptême. Acte 2, verset 38, « Repentez-vous », c'est Pierre qui parle, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Matthieu 28, verset 19, Jésus dit la même chose, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » La première étape, c'est le baptême. Le baptême ne sauve personne. Ce n'est pas le fait de me plonger dans l'eau et de me sortir de l'eau qui me sauve. C'est une démarche intérieure. Mais Jésus veut que ceux qui sont sauvés s'identifient publiquement à lui et à son peuple. D'une certaine manière, le baptême sert d'une officialisation de notre nouveau statut. Le baptême sert à officialiser le fait que nous nous identifions à Christ et à son peuple, à son Église. Si vous souhaitez vous identifier au peuple de Christ et vous attendre à ce que les chrétiens vous identifient comme l'un des leurs, alors vous devez d'abord vous identifier à Christ et c'est justement le but du baptême. Marc de Verse a justement écrit à ce propos « Le commandement le plus simple que Jésus nous ait donné, c'est lequel ? Consiste à nous faire baptiser. Après, à partir de là, les choses se compliquent. Le commandement le plus simple que Jésus nous ait laissé, c'est celui de se faire baptiser. Après, les choses se compliquent, parce que Jésus nous demande beaucoup d'autres choses. La forme, enfin, de l'adhésion. À travers le monde, les églises sont confrontées à des situations diverses et variées. Et la forme de l'adhésion pourra être donc variée aussi. Prenez le cas, loin d'être rare à notre époque aujourd'hui, d'une église qui n'a ni nom, ni bâtiment, au contraire de nous. Cette église n'est pas enregistrée auprès de la ville, car le gouvernement ordonnerait sa fermeture s'il était au courant de son existence. Les réunions ont lieu chez un membre de l'église, dans une contrée où presque tout le monde est d'une autre religion qui n'accepte pas le christianisme. Il y a là environ 10 membres, maximum, et elle ne croîtra jamais au-delà de 20. Le cas échéant, elle se scindra en deux pour ne pas être trop visible. Est-ce que la forme de l'adhésion sera la même dans une telle église que dans la nôtre? La réponse est à la fois oui et non. Il y aura des traits communs. D'un côté, l'adhésion à une église locale aura la même forme partout dans le monde. Parce que quel que soit l'endroit, quel que soit le contexte où est l'église, une véritable église regroupera des chrétiens soucieux de protéger et de vivre le véritable évangile. Et toutes les églises à travers le monde, quel que soit le pays, se trouvent finalement dans le même contexte, en territoire ennemi. Donc l'adhésion sera la même. Toutes les églises sont des ambassades du royaume de Dieu. Elles ne sont pas situées en territoire amical ou même en territoire neutre, mais elles sont toutes en territoire ennemi. Le territoire ennemi où se trouve l'église pourrait être très varié. Dans certains pays, soit pourrait être un christianisme très culturel, où on livre une grâce à bon marché. Dans un tel contexte, présenter le véritable évangile est très difficile, car un chrétien culturel croira, entre guillemets, l'évangile, sans pour autant ne faire aucune preuve de repentance. Ce christianisme culturel fait croire à l'Église qu'elle ne vit pas dans le territoire ennemi. Mais c'est faux. C'est un mensonge. Dans d'autres pays, la persécution sera utilisée par Satan pour saper, détruire l'Église. Elle sera plus visible. Chez nous, en France, il y a une forme de laïcité religieuse qui est mise en avant pour expliquer que chacun est libre de croire ce qu'il veut, tant que ça reste dans le domaine privé. Tous les chemins spirituels sont bons, tant que ça nous fait du bien. Chacun peut créer son propre mélange religieux et au nom de la tolérance, il faut savoir tout accepter. Et nous sommes en territoire ennemi. Bref, où que l'on aille sur terre, l'Église est présente pour protéger l'Évangile contre toutes sortes d'attaques en prenant soin de n'accueillir que de véritables chrétiens, de véritables membres. Et chaque Église devra poser les mêmes questions à ses membres. Qui est Jésus pour vous ? Qu'est-ce qu'est l'Évangile ? Comment vous identifiez-vous à Christ ? Ce seront des questions que chaque Église à travers le monde devra poser à ceux qui souhaitent devenir membres d'une Église locale pour valider qu'il y a une vraie foi, qu'il y a une vraie repentance qui est posée et soumise devant la parole de Dieu. Mais il y aura aussi des traits distincts. Selon la situation, le contexte, la forme de l'adhésion pourra être très différente pour s'adapter à l'environnement de chaque Église. Dans notre cas, la société s'est énormément complexifiée. Il peut être difficile de savoir qui est véritablement chrétien à cause des mobilités sociales, des horaires de travail, du pluralisme religieux. Êtes-vous disciple de Christ ? Si vous vous contentez uniquement de venir à l'église le dimanche matin, en partant directement avant la fin du culte, sans avoir aucun autre lien avec l'église, ben je l'ignore. Je ne sais pas. J'ignore quel genre de vie vous menez durant toute la semaine. J'ignore donc si vous êtes véritablement chrétien. Avoir un beau sourire évangélique le dimanche matin au culte ne fait pas de vous un chrétien. Plus une église fait face à une société à la fois complexe et visiblement peu opposée au christianisme, et plus celle-ci a besoin de structure. Voilà deux exemples pour mieux comprendre cela. Dans une société complexe, une liste de membres permet à une église de faire le suivi de personnes réparties dans un vaste périmètre urbain, à cause de leur travail. Or, dans une société défavorable au christianisme, une liste de membres peut être carrément dangereuse si elle tombe dans de mauvaises mains. Dans un contexte de persécution, le fait de se rendre au culte, de se faire baptiser, démontre de facto votre foi, parce que vous prenez un risque tellement grand. Mais dans une société où il n'y a pas d'opposition visible au christianisme, la fidélité au culte et même le baptême ne peut être qu'un leurre. Ça ne prouve rien. C'est plutôt dans une vie consacrée à Dieu, avec des fruits, à son honneur, à sa gloire, au sein d'une église locale qui démontrera votre foi dans un tel contexte. Pour notre part, dans notre assemblée, nous sommes dans un contexte à la fois complexe et peu opposé au christianisme, même si nous sommes en territoire ennemi. Et donc, nous avons choisi la forme d'adhésion suivante. Actuellement, nous avons trois types de membres dans notre Église, sympathisants, associés, actifs, qui ont différents droits et devoirs. Mais pour un chrétien né de nouveau qui fréquente régulièrement notre assemblée, le but est clairement de devenir membre actif de notre assemblée. Et pour devenir un membre actif, voilà ce que nous demandons simplement. résider en France, avoir atteint l'âge de la majorité légale, donc les 18 ans, participer régulièrement aux activités de l'association depuis au moins une année, pour qu'on ait pu voir les fruits de votre foi, adhérer sans réserve au statut, au règlement intérieur à la confession de foi de l'association, pour que nous puissions déclarer que nous croyons la même chose ensemble, satisfaire aux conditions prévues par le règlement intérieur et présenter les garanties morales et spirituelles suffisantes pour porter le nom de chrétien, que votre vie ait démontré votre foi, et en faire la demande écrite auprès du conseil d'administration qui soumet la candidature à l'Assemblée générale pour admission par vote, pour que chacun accepte votre candidature. Revenons à notre question initiale. Pourquoi adhérer à une église locale? Même s'il est vrai que vous ne trouverez aucun commandement dans la Bible qui affirme noir sur blanc que chaque chrétien doit adhérer à une église locale, j'espère qu'à travers les quelques réflexions que je vous ai partagées, vous avez saisi que chaque chrétien devrait être membre d'une église locale. Si ce n'est pas votre cas, pourquoi refusez-vous d'adhérer à une église locale? Pourquoi? Peut-être le besoin de rester indépendant? Dans ce cas, posez-vous la question de savoir sur quoi repose ce besoin de rester indépendant. Est-ce vraiment une sagesse biblique qui vous fait agir ainsi? Ou plutôt la peur, par exemple, d'avoir une relation de redevabilité avec un frère ou une sœur dans l'assemblée, pour pointer du doigt votre péché et vous faire croître en Christ? Ou est-ce que c'est le refus peut-être d'aider des frères et sœurs qui vous fait agir en indépendant? Vous voyez peut-être cela comme une simple formalité administrative, de la paperasse sans grande importance. Pourtant, c'est aussi et surtout le moyen le plus simple de démontrer votre solidarité avec vos frères et sœurs au sein de la même église locale. Ou alors, dernière idée, vous avez peut-être la peur d'être déçu. J'ai un scoop pour vous. Oui, l'église va vous décevoir. Oui, je vais vous décevoir, personnellement. Parce que l'église est remplie de pécheurs, dont vous faites partie, dont je fais partie. L'église parfaite n'existe pas dans ce monde. Et j'aime bien l'histoire de deux chrétiens qui s'étaient perdus de vue et qui se retrouvent. Le premier demande au second, « Qu'est-ce que tu deviens ?»« Eh bien, je fais partie maintenant d'une église conforme au Nouveau Testament. » Et le premier lui répond, « Ouais, nous aussi, nous avons beaucoup de problèmes dans notre église. » Il n'y a pas d'église parfaite dans ce monde. Mais il y a plein de bonnes raisons, je crois, d'adhérer à une église locale. En voilà trois. D'abord, c'est la meilleure manière de vivre l'église universelle. C'est au sein de l'église locale que les chrétiens vivent la proximité des membres de son corps, la plénitude spirituelle de son temple, l'intimité de sa famille. C'est au sein de l'église locale que nous pouvons vivre tout cela de manière concrète. C'est la meilleure manière de bénir et d'être béni par d'autres chrétiens. L'adhésion vous permet de savoir qui vous êtes responsable d'aimer, de servir, d'exhorter et d'encourager en priorité. Enfin, c'est la meilleure manière aussi de vous identifier à Christ dans le territoire ennemi où vous êtes présent. Trois applications pour trois catégories de personnes ce matin. Peut-être que vous êtes présent ici depuis quelque temps, mais que vous n'êtes pas chrétien. Vous appréciez nos cultes. Vous appréciez les valeurs que nous avons, vous appréciez les relations entre nous. Mais un jour ou l'autre, si vous ne pliez pas le genou devant Dieu, nous serons séparés. Parce que la Bible est très claire sur ce sujet. Et je ne peux que vous encourager à ne pas vous satisfaire simplement d'une certaine affection pour vos amis dans l'Église, d'une certaine satisfaction des valeurs que nous défendons, mais de vraiment plier le genou devant Christ. Deuxième catégorie de personnes, peut-être que vous êtes chrétien, vous fréquentez notre église et que vous n'êtes pas membre de notre assemblée. Pourquoi? Posez-vous ces questions, prenez le temps de réfléchir. Peut-être certains d'entre nous sont aussi en visite ici, ils ne sont pas membres de leur propre assemblée. Posez-vous ces mêmes questions par rapport à l'assemblée que vous fréquentez régulièrement. Et dernier aspect, pour les chrétiens membres, actifs de notre assemblée. Dans la semaine, quelqu'un m'a envoyé un mail souhaitant basculer du membre associé à membre actif. Et dans son mail, ça m'a fait sourire, elle écrivait « J'aimerais bien passer du statut de membre passif au statut de membre actif. » Mais ça dénote quelque chose, membre actif. Si vous êtes membre actif de l'Église, comment vous démontrez le fait que vous êtes actif dans notre assemblée? Vous êtes membre actif de notre assemblée? Comment le démontrez-vous? Comment le vivez-vous? Qu'on puisse prendre un temps pour réfléchir à ces questions, poser chacun par rapport à ces choses-là. Et j'espère que le Seigneur nous parle, et moi en premier, bien entendu, sur ce sujet. Amen.